Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Faites du bruit, la phrase n'est pas de David Guetta, célèbre DJ à une foule de jeunes dans une boîte de nuit, mais du pape François à des jeunes également, mais du monde entier, soit quelques centaines de millions cette fois. Ouvrez la porte de la cage et sortez, volez. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure, continue le pape. La semaine dernière a été publiée Christus Vivit, l'exhortation apostolique du pape François à l'adresse des jeunes. Un texte fort, aussi fraternel que paternel, une invitation faite à cette jeunesse à chercher envers et contre tout la source de l'éternelle jeunesse. Christus Vivit, la lettre du pape aux jeunes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau pour nous en parler Nicolas Senez, qui est journaliste correspondante du journal La Croix à Rome, et qui est avec nous par téléphone depuis cette même ville, Arnaud Franck, prêtre curé de la paroisse étudiante de Toulouse, et responsable du service des vocations pour le diocèse de ce lieu, Claire Colombe, qui est étudiante en couture, responsable de l'évangélisation pour la paroisse étudiante, Paul, séminariste, étudiant en théologie, et aumônier de l'université du Capitole et de Sciences Po. Bref, que de responsabilités pour cette jeunesse. Et Monseigneur Etchaine qui sera avec nous à la fin de cette émission, Monseigneur Jean-Marc Etchaine, évêque de Pamiers. On va commencer avec vous, Nicolas Senez. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Je voulais, pour lancer cette émission, que vous nous racontiez le 25 mars dernier, donc jour de l'Annonciation, le pape François a signé donc cette exhortation apostolique, Christus Vivit, il vit le Christ. Vous qui êtes à Rome et qui avez des confrères probablement venus du monde entier, ce qu'on appelle les fameux vaticanistes, est-ce que vous pouvez nous dire comment vos autres confrères, représentants des médias d'autres continents, ont pris ce texte?
Alors, ce qui a marqué dans ce texte, pour beaucoup de confrères, c'est sa longueur. Un certain nombre de confrères du monde entier ont trouvé qu'effectivement, ce texte était peut-être un peu trop long. Ça avait été un des débats du synode, de dire il faut pouvoir sortir quelque chose qui soit quelque chose d'accessible aux jeunes. Et c'est vrai que le pape était un peu dans un double défi, c'est-à-dire à la fois faire quelque chose d'accessible aux jeunes et quelque chose qui soit aussi opérationnel pour l'Église. Et il a été un petit peu obligé de tresser dans son texte ces deux exigences, quitte effectivement à faire un texte qui, pour beaucoup de confrères, semble un peu long et peu lisible. Malgré le fait que voilà, il y a une partie, un style qui est aussi très exhortatif. On sent du souffle dans ce texte. Donc voilà, c'est un peu le reproche qu'un certain nombre de collègues font, c'est ce côté finalement peu accessible pour les jeunes.
Alors ça, c'est le verre à moitié vide pour des vaticanistes qui ont l'habitude peut-être d'un regard acéré sur la vie de l'Église, mais en positif, verre à moitié plein, qu'ont partagé vos confrères?
Ce que moi-même aussi j'ai relevé, c'est ce côté d'une confiance faite aux jeunes, c'est-à-dire vraiment le côté de dire aux jeunes qu'on ne veut pas faire une église des jeunes qui soit une espèce de ghetto jeune dans l'église, mais que l'église que souhaite le pape François, c'est une église jeune où les jeunes ont pleinement leur part, sont pleinement au centre et participent pleinement sans qu'on leur concède quelques miettes en disant « faites un peu votre église de votre côté et puis nous on fait l'église sérieuse d'une autre ». Non, au contraire, c'est... et dire à l'Église que elle ne doit pas justement mettre un strapontin aux jeunes, mais les mettre vraiment au centre, les faire pleinement participer à la vie de l'Église, à l'évangélisation, écouter et mettre en œuvre leurs idées.
Alors je voulais aussi que vous reveniez, parce que je me disais qu'il fallait un tout petit peu contextualiser la publication de cette exhortation apostolique sur les précédentes étapes. Donc en mars 2018, il y a près de 300 jeunes qui se sont réunis à Rome pour une phase de pré-synode. En octobre dernier, cette fois c'était des évêques du monde entier qui se sont réunis à Rome autour du pape François avec la présence de jeunes, mais ils étaient moins nombreux. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu quelle était l'ambiance de ce synode dont il n'est pas forcément sorti grand grand-chose, mais le souvenir que j'en avais, c'est que vous nous aviez parlé d'un pape et des évêques qui avaient été quelque part émerveillés par une expérience d'église vécue ensemble. Racontez-nous.
Oui, c'est vraiment un processus qui a commencé il y a même plus longtemps que ça, puisque c'est en octobre 2016 que le pape François annonce qu'il veut faire un synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Et dès le début, il a souhaité effectivement que les jeunes soient partie prenante de ce processus. Alors ce qui est compliqué, parce que c'est un synode des évêques, donc c'est-à-dire auquel participent des délégués des évêques du monde entier. Et en même temps, il y avait cette volonté d'y faire participer des jeunes. Donc il y a eu, par exemple, un questionnaire qui a été mis en ligne par le Vatican pour essayer de sonder les jeunes sur ce qu'ils cherchaient, sur qui ils étaient. Les épiscopats du monde entier, les églises dans le monde entier ont été invités à rencontrer les jeunes, à se mettre à leur écoute. Et effectivement, il y a eu ces jeunes qui étaient présents dans une espèce de pré-synode dont la réflexion sur 5 jours a vraiment nourri les débats des évêques pendant le synode à Rome. Et puis, il y a eu cette participation effectivement de 35 jeunes du monde entier. Alors, c'est peu, d'une certaine façon, par rapport aux 200 évêques quasiment qui étaient là, mais ils ont eu une grande liberté de parole, ils ont vraiment pu interpeller les évêques qui étaient là, et finalement, ces 35 jeunes, peu nombreux, ont réussi à faire changer l'ambiance du synode et justement faire comprendre aux évêques que, justement, ils n'étaient pas là sur un strapontin, mais participaient pleinement au débat. Et moi, par exemple, je me souviens d'évêques qui me racontaient que dans les petits groupes de travail qu'il y avait, même si les jeunes ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'étaient pas évêques, tous les textes qu'ils sortaient, ils demandaient leur avis aux jeunes, et si les jeunes n'étaient pas d'accord, le texte n'était pas voté, quand bien même une majorité d'évêques le votait. Donc il y a vraiment eu un processus qui a... impliquer les jeunes de façon profonde, où ils ont non seulement été écoutés, mais entendus. Et ça, c'était vraiment une nouveauté.
Alors j'ai souvenir aussi du cardinal Schönborn, je pense que c'est vous qui aviez rapporté cette réaction, cardinal archevêque de Vienne, qui disait qu'il avait vécu une expérience d'église assez exceptionnelle, justement par aussi la liberté de ton et puis la simplicité et l'ambiance fraternelle entre évêques qui avait été créée en partie grâce aux jeunes. Alors on va donner quand même un tout petit peu la parole à nos jeunes en plateau. Est-ce que vous retrouvez dans ce texte Claire Colombe, est-ce que vous le trouvez trop long ?
Personnellement, je le trouve pas trop long. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu la sensation de recevoir un cadeau du pape. Et alors oui, effectivement, ça fait beaucoup de pages, mais tout est hyper bien articulé, avec des chapitres, des paragraphes. Tout est fait pour que le jeune retrouve finalement le paragraphe qui le concerne le plus et là où il a le plus d'attente.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est une exhortation apostolique ou vous avez l'impression que c'est le pape qui vous écrit une lettre à vous, Claire Colombe ?
Ah, très clairement, en lisant les mots, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un dialogue, un échange direct avec le pape, parce que le style est hyper fluide, parce que la lecture est vraiment très simple et du coup très accessible pour les jeunes.
On va profiter encore de votre présence, Nicolas Senez, et puis après on leur donnera plus largement la parole. Il y a un passage qui est très beau, très touchant. Et qui est assez d'actualité, c'est le pape François, à un moment, parle des errements ou des difficultés du clergé, et il met aussi les jeunes en responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage de l'exhortation apostolique ?
Oui, c'est un passage que je trouve très emblématique, effectivement, de cette exhortation, quand le pape dit que les jeunes doivent pleinement participer à la vie de l'Église. Il le fait aussi sur la question à la fois des abus, mais plus largement des errements des prêtres. Et il dit aux jeunes, mais vous avez aussi une responsabilité. Quand vous voyez un prêtre en danger, parce qu'il a perdu la joie de son ministère, ayez le courage de lui rappeler son engagement envers Dieu et annoncez-lui vous-même l'Évangile, encouragez-le à rester sur le bon chemin. Et c'est finalement cette Église qui dessine là. C'est une église où les jeunes eux-mêmes ne doivent pas avoir peur de rappeler aux prêtres et de rappeler à ceux qui ont la charge aussi d'enseigner qu'ils ont des responsabilités, que là, sur tel ou tel point, ils s'égarent. Et moi, je trouve très beau cette confiance faite aux jeunes, et puis plus largement à tous les laïcs dans l'église, de dire, vous aussi, vous avez des cartes en main, et vous ne devez pas avoir peur de bousculer vos vos aînés, de bousculer ceux qui ont les responsabilités sacramentelles, quitte à leur dire, là vous faites des erreurs, et on va vous aider, on va vous accompagner. Et voilà, ça reflète aussi finalement ce qu'on disait tout à l'heure, ces débats du synode, où les jeunes n'ont pas eu peur de dire aux évêques, sur tel point, vous vous plantez, c'est pas là-dessus qu'il faut aller, c'est pas du tout là-dessus que les jeunes partent, voilà. Donc cette mise en responsabilité, justement, je répète, de pas vouloir faire une église ou une église des jeunes dans leur coin, mais pleinement participer à la vie de l'église, y compris dans ces moments difficiles.
Nicolas Senez, avant qu'on vous quitte, si vous aviez un autre point à souligner dans cette exhortation apostolique, vous nous avez raconté le synode et la manière dont le synode se passe. J'ai le souvenir aussi que vous nous expliquiez que c'est un synode qui fera date, c'est-à-dire travailler à consulter les personnes concernées, à les réunir à Rome, et après que les évêques réfléchissent, on va dire, sur pièce et retour d'expérience, et puis parfois en présence des personnes dont on parle. Est-ce qu'il y a des choses aussi dans cette exhortation apostolique, on va dire, vue de loin et vue d'un journaliste romain, quelque chose à noter qui dit les mouvements de fond qui traversent l'Église aujourd'hui?
Je crois que le pape se garde de donner une liste de choses à faire dans son exhortation. Ça, c'est vraiment le rôle justement des églises locales, que ce soit au niveau des conférences épiscopales ou des diocèses, où chacun verra en fonction aussi de ses spécificités, de ce qu'il y a à faire. Et justement, ce que veut le pape, c'est que c'est pas à chaque évêque de décider ce qu'il va faire, mais il va le faire avec les jeunes qui sont dans son diocèse. Alors, en France, c'est vrai que c'est déjà une habitude, on entendait avec vos invités, qu'il y a déjà beaucoup de jeunes en responsabilité dans les diocèses, donc c'est plutôt quelque chose que le pape encourage et qu'il faudra continuer. Mais c'est cette façon que ça va être aux jeunes, justement, de participer. Et je crois que cette nouvelle façon de fonctionner, qui est quand même loin d'être acquise dans l'Église. Nous, on connaît ça effectivement en France depuis un certain nombre d'années. Faut savoir que dans bien d'autres endroits dans le monde, c'est quelque chose qui est loin d'être acquis, cette confiance faite aux jeunes, y compris dans l'évangélisation. Et je crois que François veut vraiment pousser ça. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est amené à changer. Et on reviendra pas à des vieilles habitudes où, moi, évêque, j'écoute ce que me disent les jeunes et puis ensuite je décide de ce que les jeunes vont faire. Non, c'est les jeunes vont me faire des propositions, ensemble on va décider et ensemble on va mettre en œuvre.
Ben merci beaucoup Nicolas, je rappelle vous êtes correspondant du journal La Croix à Rome. Avant cette première pause musicale, on peut dire aussi que cette exhortation apostolique Christus Vivit est publiée entre autres en partenariat donc avec la Conférence d'évêques de France par les éditions Bayard, Ducerre et MAM. On retrouve nos autres invités dans quelques minutes.
Emmanuel Pella.
Christus vivit, la lettre du pape aux jeunes, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On parle donc de l'exhortation apostolique du pape François. C'est la troisième qu'il publie depuis le début de son pontificat. Il y avait eu Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, presque au lendemain de son élection. L'année dernière, Gaudate et Exultate, exhortation apostolique sur la sainteté. Et là donc, Christus vivit, il vit le Christ à l'adresse des jeunes du monde entier. Après cette pause et cette musique de jeunes, n'est-ce pas, Claire Colombe?
Tout à fait.
Voilà, je sens que vous aimez la musique classique. Alors, on va recommencer avec vous, justement, puisque vous êtes la plus jeune en plateau, vous avez 20 ans, je rappelle, oui, pardon, je vais rappeler qui est autour du plateau. On était au début d'émission avec Nicolas Senez, donc journaliste pour le journal La Croix à Rome. Vous êtes donc Claire Colombe, étudiante en couture, responsable de l'évangélisation pour la paroisse étudiante à Toulouse. Notre autre jeune, c'est Paul, séminariste, étudiant en théologie, lui, et aumônier de l'université du Capitole et de Sciences Po, 25 ans. Arnaud Franck, prêtre curé de la paroisse étudiante à Toulouse et responsable du service des vocations à Toulouse. Et on sera à la fin de cette émission avec Monseigneur Jean-Marc Echène, évêque de Pamiers. Claire Colomb, vous vouliez insister d'abord sur l'évangélisation. Il y a, on va dire que le cœur de cette exhortation, c'est une invitation à tomber amoureux de manière définitive et absolue de Jésus et à annoncer avec courage, avec zèle, avec simplicité la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça vous a particulièrement frappé? Expliquez-nous pourquoi.
Déjà pour mon rôle au sein de la paroisse étudiante, du coup de l'évangélisation, et puis aussi du fait que depuis le début, le pape François insiste vraiment sur cette évangélisation. J'ai l'impression que par cette exhortation apostolique, il donne vraiment la place qu'il veut confier aux jeunes pour cette évangélisation. On n'a pas à mettre de côté une évangélisation des jeunes pour les jeunes. C'est vraiment une évangélisation des jeunes pour l'ensemble du monde entier, parce que les jeunes font partie de l'ensemble de l'Église. Et encore une fois, comme vous l'avez dit avec Monsieur Senez, on n'est pas à côté à faire une Église des jeunes pour les jeunes. C'est vraiment tous ensemble. Et c'est vraiment toute l'exhortation apostolique finalement est tournée vers cette évangélisation pour que un maximum de jeunes puissent rencontrer vraiment le Christ. Et c'est ce qui fait, la beauté et la richesse de cette exhortation.
Est-ce que vous avez des passages comme ça que vous voudriez nous citer sur, on va dire, cette invitation à trouver des chemins pour essayer de parler du Christ au monde et à la jeunesse?
Alors déjà, on le verra dans cette exhortation, il est fan des phrases un peu choc. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le paragraphe 167, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu aime celui qui donne avec joie. Finalement, dans cette exhortation, on voit les deux côtés, pour toutes les grâces qu'on peut recevoir pour la personne qui évangélise, et aussi toutes les grâces que peuvent recevoir une personne qui est évangélisée. Et il y a vraiment ces deux côtés qui sont mis en parallèle dans l'exhortation et qui sont aussi très belles.
Alors vous qui êtes responsable de l'évangélisation donc pour la paroisse étudiante, est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit tiens, ça m'aide à voir la manière dont il faut s'y prendre, la juste attitude? Est-ce qu'il y a des passages où qui vous ont aidé en fait à éclairer votre responsabilité?
Effectivement, il y a le passage où il dit que c'est avant tout une rencontre avec le Christ qu'on doit faire. C'est le paragraphe 129 où il dit que à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Dans l'évangélisation et dans la rencontre avec l'autre, c'est pas avant tout des grands principes qu'on doit exposer à l'autre, c'est pas avant tout des grandes idées ou ce que pense l'Église sur certaines choses, c'est vraiment tout faire pour que l'autre rencontre le Christ personnellement. Et c'est de cette rencontre personnelle avec le Christ que pourra naître une amitié avec lui.
Alors donnez-nous un petit vent de fraîcheur, parce que on imagine qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui peut-être se découragent ou ne savent pas forcément comment s'y prendre, parfois même dans leur entourage propre. Comment la paroisse étudiante et comment vous, avec vos équipes, Claire Colombe, proposer à des jeunes qui sont loin de la foi une rencontre personnelle avec le Christ, c'est quand même un sacré défi. On imagine que vous n'avez pas de recette, mais qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus?
Nous, à la paroisse étudiante, on propose les soirées, ce qu'on appelle les soirées flammes, formation, louange, adoration et mission, qui du coup sont complémentaires justement sur les deux plans, pour les personnes qui sont évangélisées et pour les personnes qui partent évangélisées. Et c'est des rencontres avec les personnes dans la rue. Et ce sont des rencontres pendant lesquelles on n'expose pas de grands principes, mais on témoigne. Parce que pour que l'autre rencontre le Christ de manière personnelle, ça passe avant tout par notre témoignage. Et le pape François le répète souvent dans l'exhortation, que notre vie soit avant tout un témoignage pour l'autre avant de vouloir énoncer des grands principes. Et du coup, voilà, le but de ces soirées, c'est d'aller rencontrer les autres dans la rue et de pouvoir leur témoigner de ce qu'on vit. Et puis, la paroisse étudiante, qui est aussi un autre gros point, je pense, est présente sur les réseaux sociaux. Et on le voit dans l'exhortation apostolique aussi, la place des réseaux sociaux dans les jeunes, pour les jeunes.
Il parle de Marie comme d'une influenceuse, mais ça, c'était, je crois que c'était déjà dans il avait dit en d'autres circonstances, hein, Père Arnaud. J'ai souvenir que c'était dans votre livre.
Et voilà. Et les réseaux sociaux maintenant sont aussi une forme d'évangélisation parce qu'on propose différentes soirées, différents moments pour que ces jeunes qui sont en dehors de l'Église puissent être rejoints par le Christ.
Père Arnaud, l'évangélisation, ça peut, enfin, on peut rencontrer le Christ juste en rencontrant un jeune qui témoigne. Ça peut se passer comme ça?
Oui, le pape François parle de la grammaire de l'amour, de la proximité. Bien sûr, on ne vend pas un produit. Le Christ, comme il le dit au premier numéro, hein, est notre vie, notre espérance. Donc quand un jeune va à la rencontre de l'autre, il y va avec beaucoup d'amour, en croyant aussi que l'Esprit du Seigneur le travaille à l'avance. Il compare dans cette exhortation le cœur d'un jeune à une terre fertile, déjà où l'Esprit Saint est à l'œuvre. Donc les étudiants qui partent évangéliser ne partent pas en conquérant, mais plutôt comme témoins de l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne qu'ils rencontrent. Et Dieu sait que dans nos rues, dans les bars, dans les lieux où sont les jeunes, il y a beaucoup de solitude. Alors, lorsqu'il y a cette culture de la rencontre, que les jeunes peuvent vivre ensemble, quand un dialogue en toute confiance s'établit, alors ils découvrent que les chrétiens ne sont pas des personnes hors sol, mais des personnes vraiment de leur temps qui cherchent aussi un sens à leur vie. C'est important de vivre cette proximité et que dans cette proximité, les étudiants chrétiens témoignent du Christ et de ce que l'Évangile peut leur apporter.
Alors Paul, vous vouliez nous parler, vous, de l'enthousiasme et de l'appel à changer le monde du pape François. J'introduirai votre propos, alors c'est le paragraphe 160. Le pape François dit que tout le monde doit, enfin personne quelque part ne doit vieillir dans l'Église. Au contraire, même un adulte doit mûrir sans perdre les valeurs de la jeunesse. Et puis il fait cette belle confidence. Quand j'ai commencé mon ministère de pape, le Seigneur m'a élargi les horizons et m'a offert une nouvelle jeunesse, dit-il. La même chose peut arriver pour un mariage célébré il y a de nombreuses années ou pour un moine entré dans son monastère. Il y a des choses qui demandent des années pour s'établir, mais ce mûrissement peut cohabiter avec un feu. Qu'est-ce que vous diriez sur ce volet de l'enthousiasme et surtout ce qui vous a frappé dans cette exhortation?
Déjà, c'est vrai que c'est une très belle exhortation. C'est vrai que c'est un peu long. Moi, j'ai trouvé ça un peu long, mais et en même temps très accessible.
Vous pourriez être vaticaniste, alors c'est
je
bien.
Être vaticaniste, voilà. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était très accessible. Et c'est vrai que malheureusement, je suis pas sûr que la longueur permette le fait que tout le monde la lira, mais après prendre des passages choisis permettra, je pense, d'être lu par beaucoup et comprise par beaucoup sans avoir besoin d'être dégrossi par un prêtre ou un religieux ou un spécialiste de la question.
Sur l'enthousiasme, qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que vous auriez des passages qui pourraient...
Je pense que le pape a une grande confiance en la jeunesse, essentiellement. Il souligne justement ce côté de l'enthousiasme. Il dit que la jeunesse est marquée par des rêves qui peu à peu prennent corps, par des relations qui acquièrent toujours plus de consistance et d'équilibre. Il souligne cet enthousiasme de la jeunesse, puisqu'il voit les jeunes qui marchent comme les adultes, qui sont sur deux pieds, mais qui en même temps n'ont pas les pieds parallèles, mais un pied qui avance, qui est toujours prêt à bondir. Et en même temps, à côté de ça, il voit la fragilité de la jeunesse, sa vulnérabilité, le fait que un jeune peut être vite paralysé par la peur, par une absence de racines aussi, et puis par l'angoisse de voir le monde difficile dans lequel il est. Et puis de voir du coup ses rêves disparaître par le monde qui n'est pas forcément très enthousiasmant pour le coup.
Alors, il y a d'autres passages, j'en citerai un, c'est le paragraphe 252. La vie que Dieu nous offre n'est pas non plus un tutoriel avec lequel on apprend la dernière nouveauté. Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires. Et puis, entre autres, il y a cette expression après, je suis une mission sur terre. Je crois que c'est une expression qu'il a utilisée. Il y a beaucoup d'expressions comme ça, assez fortes. Voilà, on va dire très, très pape François. Père Arnaud Franck, est-ce que vous en avez relevé quelques autres?
Alors aussi, peut-être pour donner une cohérence de l'ensemble, toutes ces images, elles servent à exprimer ce que le pape François dit dans le premier numéro, je pense qu'il est bon de lire. Il vit le Christ, notre espérance, il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Il vit et il te veut vivant.
Et c'est d'abord à cette rencontre que le pape François invite
les jeunes. Oui, et peut-être le maître mot de toute cette exhortation, c'est la vie. C'est le Christ vit, ce n'est pas un personnage du passé, ce n'est pas un exemple, un personnage de l'histoire. C'est une personne vivante. Et cette vie, Jésus qui est plein de vie, alors nous rend pleinement vivants. Alors notre vie est unique. Il emploie une image qui est assez belle et qui apparaît pour la première fois dans ces textes. Dieu nous crée comme original, il veut pas une photocopie. Tu es une personne unique et le Seigneur veut te remplir de vie. Il veut que tu donnes au monde ce que personne d'autre ne peut donner. Alors oui, tu as une mission, c'était déjà dans la joie de l'évangile, sa toute première exhortation. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est le Seigneur vit et il te veut vivant. Ta vie n'est pas une attente de la mort et de la vie éternelle. Non, ta vie sur terre, elle est très importante. Tu as une place dans le monde. La jeunesse est un temps aussi béni dans ta vie, et même plus tard, quand tu seras vieux, tu pourras revenir sur ce temps où tu auras mûri certaines intuitions fortes de toute ta vie. Il te veut vivant avec d'autres, il ne veut pas que tu sois isolé, et du coup il compare la vieillesse sur son mauvais penchant à l'isolement, à quelque chose qui ne donne plus d'élan, ni de nouveauté, ni d'espérance. Alors, c'est cette vie. Alors, il y a un numéro aussi qui concentre beaucoup d'images et qu'on peut lire, et qui sent bien la vitalité aussi du pape François. Voilà, jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir d'un balcon, ne confondez pas le bonheur avec un divan, ne vivez pas toute votre vie derrière un écran, ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques. Ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit. Ne soyez pas des jeunes momifiés. Ouvrez la porte de la cage, sortez voler. Et ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Donc le numéro 143 concentre plein d'images très très vives qui parlent aux jeunes, ainsi que voilà, la vie n'est pas un tutoriel, ce n'est pas une application, elle n'est pas dans un cloud, elle n'est pas dans ces nuages virtuels. Non, c'est bien concret. Donc il nous pousse vraiment à la vie et à la vie de Dieu et à trouver notre vocation aussi dans cet élan de vie.
Alors on imagine que cette exhortation donc s'adresse à l'ensemble du peuple de Dieu, évidemment particulièrement à la jeunesse. Claire Colombe, est-ce que vous croyez que ça c'est un texte qu'on peut mettre dans les mains d'un jeune qui chercherait un sens à sa vie? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça pouvait rejoindre d'éventuels copains d'études?
Je pense que ça peut rejoindre d'éventuels chrétiens d'études dans le sens où elle est extrêmement ouverte, déjà facile à lire. Toutes ces expressions, toutes ces phrases choc fait qu'on se retrouvera forcément à un endroit. Et puis de sa longueur, on a forcément un paragraphe qui nous rejoindra. Il aborde quasiment tous les sujets. Et c'est là où il reproche parfois à l'Église de vouloir donner des concepts tout faits, de vouloir donner des règles. Il rappelle que l'Église, avant tout, c'est pas une règle, mais c'est une rencontre, c'est une vie avec le Christ, c'est cette amitié entre le Christ et nous. Et je pense que, justement, ça pourrait faire beaucoup de bien à certaines personnes de voir que l'Église évolue, l'Église grandit, et que maintenant on est passé à une Église qui se veut une Église de rencontre, une Église de fraternité, et dans laquelle on garde nos racines, nos idées, mais dans laquelle on écoute, C'est vraiment, il insiste aussi sur cette écoute des jeunes. Alors oui, je pense que c'est vraiment une exhortation qu'on
et
peut offrir.
Est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est vrai que le pape François est assez vigoureux à l'égard de la jeunesse, à la fois il relève le temps béni que c'est, il rappelle que Jésus était un jeune aussi, hein. Il parle de la jeunesse de Jésus, il rappelle entre autres que Jésus est mort à 33 ans, ce qui n'est pas très vieux, alors peut-être l'était-ce un peu plus à son époque, mais ça c'est vrai que c'est frappant quand on lit, enfin moi ça m'a frappé quand on lit cette exhortation. S'il secoue comme ça la jeunesse, est-ce qu'elle a besoin d'être secouée? Est-ce qu'elle a besoin d'aider à, on va dire, à relever la tête et à croire en elle-même et en l'avenir? Vous qui connaissez plus que nous tous ces jeunes, est-ce que c'est une des difficultés des jeunes que vous croisez, c'est que l'horizon est bouché, on se demande ce qu'on fait là et dans le fond on essaie de pas trop y penser?
Oui, je pense que la jeunesse a besoin d'être secouée. Elle a besoin aussi d'être rejointe dans ce qu'elle vit. Au quotidien. Elle a besoin qu'on la guide, qu'on l'éclaire, et je pense que c'est ce qu'a fait cette exhortation, de montrer le chemin, de montrer la direction, et voilà, c'est plus des grands principes, c'est vraiment une église qui rejoint. La jeunesse a aussi beaucoup souffert ces derniers mois de tout ce qui a pu se passer dans l'église. Et bien, cette exhortation vient vraiment nous rejoindre, vient vraiment expliquer. Et moi, je pense que voilà, la jeunesse a besoin d'être réveillée, elle a besoin d'être secouée. On est parfois un peu happé par le quotidien, par tous nos petits tracas. Et voilà, c'est rappeler que nos petits tracas, on les a, mais il faut regarder plus loin, regarder vers le Christ.
Dans cette exhortation, il y a aussi tout un passage où le pape François fait écho aux situations déchirantes que peuvent vivre certains jeunes, aux souffrances parfois terribles. Il a cette phrase « Parfois la souffrance de certains jeunes est vraiment déchirante. C'est une souffrance qu'on ne peut exprimer par des paroles, c'est une souffrance qui nous gifle. » Puis il y a cette invitation, comme souvent le pape François a cette expression, il invite à pleurer, il nous invite à nous interroger aussi sur le cœur qui est le nôtre et donc la manière qu'on a de regarder ces jeunes. Peut-être que nous avons une vie sans trop de besoins, nous ne savons pas pleurer, certaines réalités de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. Est-ce que ça vous a frappé aussi ce passage, Père Arnaud Franck?
Oui, d'autant plus que dimanche, nous avons entendu dans beaucoup de communautés qui accompagnent des catéchumènes vers le baptême l'évangile de Lazare et Jésus qui pleure devant la mort de Lazare, qui pleure aussi parce qu'il voit ses sœurs éprouvées, toute la foule perdue.
Ça vous fait pleurer aussi parfois la situation de certains jeunes ou de la jeunesse ?
Et donc, si je suis le disciple du Seigneur qui pleure devant la détresse humaine, oui, j'ai en tête plusieurs visages d'étudiants qui m'ont raconté leur histoire et bien souvent, je n'ai pas pu apporter de mots, mais une écoute et peut-être une larme et oui, ça fait partie du ministère que le Seigneur nous confie.
Qu'est-ce qui vous frappe dans les souffrances de la jeunesse aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le pape François parle évidemment des jeunes du monde entier, mais si on revenait un peu à Toulouse, ça serait quoi surtout?
Bah, je dirais des complications familiales très très dures qui imposent des blessures, qui empêchent de voir l'avenir avec sérénité. D'autant plus, comme disait Claire Colombe, enfin toute la violence du monde et parfois dans l'Église, mais peut-être ce qui me touche aussi, c'est de voir combien ils sentent ou ils pressentent que Dieu est tout proche d'eux. Ils auraient toutes les bonnes raisons pour ne pas croire en Dieu. Or, dans leur abîme, ils ont pu pressentir l'abîme encore plus profond qui est celui de la miséricorde de Dieu. Et je pense que nos larmes de prêtres, c'est à la fois de pleurer avec ceux qui pleurent véritablement parce qu'il y a des épreuves terribles. Et en même temps, on pleure aussi avec compassion de découvrir comment l'être humain peut s'ouvrir dans la fragilité à la présence et à la force de Dieu. Et c'est de pleurer face à la détresse humaine, mais c'est de pleurer face à l'œuvre toute puissante que Dieu peut faire dans la vie des êtres tellement blessés.
Vous vouliez insister, Père Arnaud Franck, aussi, à la fin de cette partie, sur l'invitation, enfin l'appel à s'engager, à se donner. Bref, le Père François parle des vocations.
Oui, il consacre les deux derniers chapitres à la vocation et au discernement. Et il commence par dire que la vocation, c'est répondre à l'amitié avec Jésus, que c'est vivre ça d'abord, être pour les autres. Ce n'est pas forcément la question « qui suis-je » que nous devons nous poser. Parfois, on peut croire ça. « Qui suis-je ? Quelle est ma vocation ?» Non, la question qu'il faut nous poser, c'est « qui suis-je pour les autres ?» Qui suis-je pour quel service je peux rendre au monde, à l'Église? Et là, c'est au numéro 285, comme un bon jésuite, les questions qui peuvent aider au discernement. Trois types de questions. La première, la connaissance par rapport à soi-même. Il dit, mais est-ce que je me connais moi-même, au-delà des apparences, au-delà de mes sensations? Est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste? Il redit avec force que la vocation, ce que Dieu veut, c'est ce que moi, profondément, je veux. Qu'est-ce qui me rend pleinement heureux? Il n'y a pas une incompatibilité entre la vocation et mon bonheur. Mais très vite, il va poser une deuxième série de questions, après avoir permis la connaissance de soi. Alors, comment puis-je servir au mieux et être plus utile au monde et à l'Église? Quelle est ma place sur cette terre? Qu'est-ce que je pourrais offrir à la société? Donc on voit bien ce être avec les autres pour les autres. Et puis la dernière série de questions, qui est très réaliste je trouve, est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour assurer ce service? Est-ce que je pourrais développer les capacités nécessaires? Et ce qui m'a ensuite touché, c'est qu'il parle de deux lieux où justement la vocation s'exprime pour les autres, c'est la famille. Il a au moins 4, 5, 6 numéros sur la famille, sur le mariage. Il dit je vous demande d'opter pour le mariage.
Sur les anciens aussi, il invite à prendre soin des anciens, il me semble. Enfin.
Oui, pas dans cette partie des vocations. Il parle davantage de la famille comme un lieu pour se donner. Effectivement, les anciens ont leur place pour pouvoir aux jeunes de s'épanouir. Le deuxième lieu, c'est le travail. Parce que beaucoup de jeunes choisissent aujourd'hui leur travail non pas en fonction du revenu, mais en fonction de l'épanouissement que cela peut leur apporter. Et puis, il consacre uniquement 2 ou 3 numéros sur les vocations, non pas spécifiques, mais particulières, qu'est le sacerdoce et la vie consacrée. Et je trouve qu'il est là bien dans le souffle du synode. Il remet les choses à leur place en disant que le Seigneur appelle tout être humain sur cette terre à vivre une amitié unique avec le Seigneur, que cette amitié elle ne nous replie pas sur nous-mêmes, mais qu'elle nous tourne résolument vers les autres. Il appelle à une amitié sociale. C'est très beau ce lien, amitié du Seigneur, qui du coup marque une amitié sociale, de construire des ponts à travers la société. Et que le mariage est au cœur de tout. C'est aussi la suite du synode sur la famille, Amoris Laetitia. Et puis il dit aux jeunes, allez voir le chapitre 3 et 4 de Amoris Laetitia. Et puis après, bien le ministère ordonné, la vie consacrée ne sont là que comme signe, comme service qui honore le mariage et cette amitié avec Jésus.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Pour ceux qui nous quitteraient, je rappelle que Christus Vivit, évidemment, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, entre autres donc aux éditions Bayard, Serre, MAM, en partenariat avec la Conférence des évêques de France.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit, tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Pour tout changer. mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Christus vivit, la lettre du pape aux jeunes, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On se penche donc et on parcourt ensemble cette exhortation apostolique, Il vit le Christ, publiée par le pape François, donc la semaine dernière, qui s'adresse aux jeunes du monde entier, puis aux catholiques du monde entier. Autour du plateau, pour rappel, était avec nous au début de l'émission Nicolas Senès, journaliste à Rome pour le journal La Croix, le père Arnaud Franck, prêtre curé de la paroisse étudiante, entre autres, Claire Colombe, qui est étudiante, et donc entre autres responsable du pôle évangélisation pour la paroisse étudiante, Paul, séminariste et donc étudiant en théologie. Il nous a rejoint donc Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors je me disais que c'était bien de finir par un évêque parce que on se demande toujours ce type de texte, comment ça peut être reçu par un pasteur. Voilà, quel écho ça trouve dans le cœur du pasteur que vous êtes. Ça serait ma première question.
Bien, c'est vrai que on est en attente dans des périodes de l'Église qui sont complexes, parce que on est pour nous, au moins, dans une nation qui a tendance à se déchristianiser, avec des jeunes qu'on a un peu plus de mal à mobiliser. Donc quand il y a une réflexion fruit d'un synode qui est proposé par Rome, on est très attentif, parce qu'on se dit, tiens, il y a peut-être des points d'attention là qui vont nous aider à renouveler notre pastorale, à nous engager de manière nouvelle dans cette pastorale des jeunes.
Alors justement, quels seraient les différents points qui vous ont marqué, où vous vous êtes dit, tiens, ça me parle au cœur et ça m'aide à envisager les choses peut-être sous un autre jour?
Alors, une chose qui revient fréquemment, c'est cette idée qu'il s'agit de que les jeunes soient évangélisés par d'autres jeunes. Donc ça fait écho à ce qu'on constate souvent, mais qu'on a du mal à mettre en œuvre, à cette idée qu'il y a une accélération culturelle tellement forte d'une génération à une autre, que parfois on ne parle pas le même langage de jeunes qui ont parfois simplement 10 ou 20 ans de moins que nous. Donc les mieux habilités, ceux qui parlent la langue de ces générations nouvelles, ce sont les jeunes eux-mêmes. Donc détecter quelques jeunes habités, saisis par le Christ, et auxquels on donne quitus pour leur dire, mais n'attendez pas que nous vous donnions des indications ou des ordres en quelque sorte, ou des précisions pour annoncer l'Évangile, annoncer le kérigme avec ce qui vous parle au cœur et à l'esprit, parce que vous savez le faire dans cette langue qui est celle de vos contemporains que nous connaissons moins bien.
Est-ce que vous auriez des exemples dans le diocèse de Pamiers, vous revient en tête des visages ou justement des personnes à qui vous avez donné quitus, comme vous dites?
Oui, je pensais à un séminariste, mais aussi avec d'autres jeunes de sa génération qui eux maintenant sont des jeunes professionnels, qui se sont lancés dans une appréhension des réseaux sociaux, en particulier la confection d'un site internet ou des pages ouvertes sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Et eux, presque spontanément, sont capables de dire ben « ça nous parle, il nous faut plutôt qu'un grand discours avec un visage figé qui fait une conférence, il nous faut une petite vidéo d'une minute et demie avec un peu d'humour ». Ça, eux, spontanément, ils en ont le sens parce qu'ils savent bien ce qu'ils vont chercher sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc on leur a donné quitus, bon, avec, comme toujours, avec de la prudence, en disant, bon, là, peut-être que c'est un peu trash, cette fois, et donc ça peut choquer certaines personnes, donc c'est intéressant le travail que vous avez fait, mais faisons un peu attention ensemble. Donc une certaine, le pape, il revient souvent dans sa lettre, il ne s'agit pas d'être dans le conflit des générations, dans l'idée que certains seraient dans le vrai et d'autres dans l'erreur, donc dans le vrai les jeunes et puis les anciens dans l'erreur. Il s'agit d'harmoniser finalement peut-être la sagesse des anciens, qui sont un peu plus lents, qui maîtrisent moins les codes d'aujourd'hui, avec le sens de l'innovation et de la créativité des jeunes générations, et d'être ensemble, c'est-à-dire fonctionner avec des « et », une conjonction de coordination, plutôt qu'avec des « ou ». Les jeunes ou les anciens, c'est les jeunes et les anciens.
Monseigneur Jean-Marc Eschen, il y a un passage, je me suis dit, qui a dû vous plaire, puisque, donc je rappelle, vous êtes évêque de Pamiers, on va dire que votre diocèse est habité peut-être particulièrement, alors j'ai pas fait de grande enquête sociologique pour avancer ce que je dis, mais par des populations qui ont une recherche spirituelle assez symptomatique de celle des Français, un peu le monde qu'on qualifie de New Age ou de spiritualité autre que chrétienne. Ce passage est le suivant. Il doit également y avoir de la place, c'est le paragraphe 235, pour tous ceux qui ont d'autres conceptions de la vie, professent une foi différente ou se déclarent étrangers à l'horizon religieux. Et le pape François ajoute, tous les jeunes, sans aucune exception, sont dans le cœur de Dieu et donc dans le cœur de l'Église. Est-ce qu'il faut lire là aussi qu'il serait bon de construire on va dire, la pastorale des jeunes avec des jeunes qui n'en sont pas, quelque part?
Oui, effectivement. La construire avec eux et être attentif à leurs attentes. Plusieurs fois ces derniers jours, y compris en accompagnant des catéchumènes, de jeunes adultes qui demandent à vivre le baptême, on se rend compte que ces jeunes en question, qui franchissent le pas parce qu'ils ont vécu une expérience spirituelle forte, ne sont pas ou n'étaient pas de l'Église institution au sens strict du terme, mais appartenaient de manière plus mystérieuse à une église plus large que l'église visible, et qu'ils étaient rejoints par le Seigneur. Parce que s'ils demandent le baptême, à un certain moment, c'est qu'ils ont vécu une expérience spirituelle intérieure forte. Donc ça veut dire que le Seigneur s'est exonéré des frontières qu'il établit lui-même, des frontières de l'église visible, pour travailler le cœur de ces jeunes. Et ces jeunes-là peuvent nous dire, faites bien attention, par exemple, ils nous disent ça très clairement. J'ai encore entendu un jeune dire ça en assemblée des évêques, là, parce que on avait convié quelques jeunes à témoigner, dire « mais on attend des membres de l'Église qui nous annoncent Jésus vivant et sauveur, donc le kérigme, Jésus vivant qui nous sauve, et parfois on est confronté à un discours moral ou un discours dogmatique ou à l'invitation à nous engager dans des rites, mais on a le sentiment que l'expérience spirituelle, c'est pas le cœur de préoccupation de l'Église, au moins telle qu'on l'appréhende. Et ils finissent par être touchés et rejoints quand ils s'aperçoivent qu'on a aussi une très belle et très riche tradition de chemin de vie spirituelle plutôt que de chemin moralisateur ou de chemin dogmatique. Après, une fois qu'on a rencontré le Christ, bien sûr que ça a des incidences dans un changement de comportement ou dans une appréhension des mystères de Dieu sur lesquels on peut mettre des mots, y compris des mots théologiques, mais d'abord, c'est la rencontre. Donc vraiment.
Mais Monseigneur Eschen, juste la remarque du pape François, c'est pas seulement d'y être attentif, c'est de peut-être prendre l'habitude que ces jeunes soient consultés et que les choses soient construites avec eux. C'était le sens de ma question. Ce qui, pour le coup, est une sacrée révolution. J'ai souvenir que dans la phase pré-synodale à Rome, quand 300 jeunes avaient été invités, il y avait des jeunes non-croyants qui avaient été invités à Rome et qui avaient voix au chapitre.
Oui. Eh bien, oui, c'est tout à fait ça. À un certain moment, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment des jeunes non-croyants ou n'appartenant pas même à un chemin de spiritualité sont assez disponibles quand on leur dit, bah, écoutez, vous ne voudriez pas jeter un regard extérieur sur ce qu'on vit et puis nous adresser quelques préconisations en nous disant, bah, voilà, là vous êtes partis sur de mauvaises bases, ça ne parle pas aux gens de ma génération. Il faut, oui, le pape nous invite à ça. Et parfois, être simplement, comme on a vécu ces expériences-là sur notre territoire, un peu dans une évangélisation explicite, un peu de rue à la rencontre des gens qui nous disent, bon, écoutez, moi, je suis pas trop croyant, mais je veux bien discuter avec vous, et je veux bien vous donner le regard que j'ai sur ce que vous vivez. Peut-être que ça peut vous éclairer pour aménager des choses. Et le pape nous engage dans ce chemin-là, explicitement.
Père Arnaud Franck, pour finir, vous vouliez prendre la parole. Je vois qu'il nous reste une grosse minute, ça sera le mot de la fin.
Bah, comme Mgr Echan le disait, c'est vrai que c'est le texte d'Emmaüs peut-être qui peut vraiment inspirer notre Église d'aujourd'hui. C'est Jésus qui va rejoindre les disciples égarés, qui peut-être ne vont pas sur le bon chemin, ils vont à contresens de Jérusalem, et Jésus va vers eux, ne leur dit pas « Eh oh, vous vous trompez, le dogme dit ça, l'Église c'est ce sens-là ». Jésus s'approche d'eux, presque incognito.
Il leur dit quand même que votre cœur est lent à croire, non ?
Oui, mais ça, il le dit à la fin, pas D'accord. au début. Il réchauffe d'abord leur cœur par les questions qu'il leur pose. Et le pape insiste sur le questionnement, oser questionner Jésus. C'est ça qui est frappant. Jésus ne leur dit pas ce chemin, il est là, mais il rejoint leur chemin. Et il réchauffe leur cœur par la proximité. Ils partagent même leur vie, le pain, et c'est après avoir fait cette rencontre que eux-mêmes décident de revenir vers Jérusalem et annoncer aussi que le Christ est vivant. Donc c'est une invitation pour nous, Église, de renouveler notre manière d'être à la lumière de la parole de Dieu, et je pense que il nous faut tous maintenant bien méditer cet évangile d'Emmaüs.
Il vit le Christ, notre espérance, il est la plus belle jeunesse de ce monde. Voilà comment on commence donc cette exhortation apostolique, donc à lire Christus vivit, publié par le pape François la semaine dernière. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin nous donner envie de lire ce texte et puis d'en vivre. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.